Antonio Guterres, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu mercredi à Bangassou, ville attaquée il y a 5 mois et toujours coupée en deux. Est-ce que c'est l'un des symboles du nettoyage ethnique que vous dénonciez récemment ?
Pas encore, mais il y a un risque effectif. Je crois que, en général, les guerres religieuses ont toujours une origine politique. Et les musulmans et les chrétiens ont vécu en Centrafrique pendant des décennies, des siècles, d'une façon générale, avec une complémentarité d'ailleurs dans leurs professions, dans leurs intérêts économiques. Et la vérité, c'est qu'à un moment donné, des responsables politiques, pour des finalités égoïstes et de manipulation politique, ont, je dirais, réussi à créer un environnement de méfiance et quelquefois d'hostilité entre les deux communautés. Et il faut absolument combattre ça. Il faut que les gens apprennent à vivre ensemble de nouveau, et il faut combattre toutes les manifestations de sectarisme. Si on ne le fait pas, et d'ailleurs là, la MINUSCA a un rôle essentiel à jouer, on risque d'avoir premièrement une fracture entre les deux communautés, et deuxièmement des nettoyages ethniques dans certaines zones où une des communautés est minoritaire.
La MINUSCA est souvent critiquée ici pour son incapacité à empêcher les violences et à protéger efficacement les civils. Comment améliorer cela ?
Premièrement, la MINUSCA est une force de maintien de la paix. Le drame, c'est qu'il n'y a pas véritablement de paix pour maintenir. Et on demande à la MINUSCA qu'il fasse une protection des civils dans des circonstances où les civils sont attaqués par des groupes armés, quelquefois avec des armements et des capacités qui sont assez importantes. Et il y a, on le sait, du trafic d'armes qui vient notamment de la République démocratique du Congo. Et on a vu dans l'opération de Bangassou qu'il y avait une planification quasi militaire dans la façon dont la ville a été prise, et les accès ont été bloqués pour éviter que la MINUSCA puisse opérer. Il faut renforcer la capacité de la MINUSCA en dimension. C'est pour ça qu'on a demandé un bataillon additionnel au Conseil de sécurité, mais renforcer aussi en moyens opérationnels. Il faut plus de voitures blindées et il faut aussi une meilleure mobilité. Et on a vu que quand les hélicoptères peuvent, par exemple, être utilisés, le mouvement peut se faire. Mais quand on prend 3 semaines pour aller de Bangui à Bangassou par route, on comprend les énormes difficultés de cette mission de maintien d'une paix qui véritablement n'existe pas.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de qualité, d'efficacité de certains contingents ?
Naturellement qu'il y a une certaine hétérogénéité, mais nous sommes en train d'améliorer la capacité de la force. Il y avait même un contingent qui a été renvoyé et qui a été remplacé par des éléments qui, à mon avis, sont mieux préparés. Et il y a un effort d'entraînement à faire et d'amélioration de l'équipement. Vous avez vu beaucoup de forces qui sont dans des pick-up, dans des zones dangereuses. Ça veut dire sans aucune protection, blindée. Et il faut que les conditions de travail pour les casques bleus puissent correspondre au niveau de danger auquel ils font face.
Qu'est-ce qui doit changer dans le mandat qui sera d'ailleurs renouvelé le mois prochain ? Peut-être un changement de stratégie, d'approche ?
Je crois que le mandat nous permet une interprétation plus robuste, mais je crois que la question essentielle est une question des moyens. Et après, avec des moyens et avec une amélioration opérationnelle et en essayant de garantir une progressive amélioration de la qualité de la performance, on sera en condition d'améliorer substantiellement la protection des civils, même en tenant compte, c'est un pays énorme, avec une grande imprévisibilité des violences, parce que ces groupes armés, ils apparaissent n'importe où et d'une façon difficile à prévoir, raison pour laquelle on voudrait avoir des drones aussi. Naturellement, ce sera toujours difficile de garantir une efficacité à 100%. Mais je crois qu'il y a des choses à améliorer et nous avons discuté avec le commandant de la force quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour, avec les ressources limitées dont on dispose, mais j'espère aussi avec des décisions positives du Conseil de sécurité, on puisse améliorer la capacité opérationnelle de la force et en conséquence le niveau de protection accordé aux civils en République centrafricaine.
La crise humanitaire s'aggrave également. Comment remettre la Centrafrique au cœur des préoccupations de la communauté internationale.
C'est la raison de cette visite. C'est-à-dire, on a décidé de célébrer la journée mondiale des Nations Unies ici en Centrafrique, exactement parce qu'on croit que la Centrafrique est une crise oubliée largement par la communauté internationale qui est concernée, et c'est ça, on peut le comprendre, par ce qui se passe en Corée du Nord, et la menace nucléaire, par le Moyen-Orient qui devient de plus en plus compliqué, par un certain nombre d'événements qui attirent l'attention et des médias et des parlements et des responsables politiques. Il faut remettre le Centrafrique dans la carte des préoccupations des responsables politiques dans le monde. Et je crois que les conditions vont nous permettre de mieux financer le plan humanitaire, qui maintenant est financé à moins de 40%, même si ce plan est un plan, je dirais, très prudent, mais que nécessairement a besoin d'un financement à 100% pour être efficace. En même temps, il y a des problèmes d'accès, parce que le Centrafrique est le pays du monde où l'action humanitaire est plus dangereuse. Nous avons eu 12 morts, travailleurs humanitaires, en Centrafrique cette année, d'où l'importance d'une capacité de la MINUSCA accrue aussi pour permettre une aide humanitaire plus étendue dans le territoire.
Les ONG parlent souvent du fait qu'ils sont pris pour cible et demandent une plus grande distinction entre le volet militaire et politique de l'opération de maintien de la paix, d'une part, et son volet humanitaire. Est-ce que vous entendez cette préoccupation ?
On a discuté avec les ONG hier, il y a un accord que l'espace humanitaire doit préserver son autonomie. C'est-à-dire, il faut que l'activité humanitaire obéisse aux principes humanitaires. J'ai été chef d'une agence humanitaire pendant une décennie. Je sais très bien ce que ça veut dire. C'est l'impartialité, la neutralité, l'indépendance. Le problème, c'est que dans les circonstances de la République centrafricaine, les humanitaires eux-mêmes ont besoin de la protection physique d'une force militaire. Et c'est là que c'est quelquefois difficile de garantir cette autonomie de l'espace humanitaire, qui est en tout cas un principe essentiel qu'on doit préserver dans toutes les conditions possibles.
Les casques bleus sont régulièrement accusés ici d'abus sexuels. L'ONG AIDS Free World accuse les Nations Unies de bâcler les enquêtes préliminaires. Qu'est-ce que vous répondez ?
Non, au contraire. Maintenant, on a complètement décidé à faire un travail très sérieux pour éliminer, si possible, les abus sexuels de tous les personnels des Nations Unies. C'est absolument inacceptable qu'une force de protection puisse commettre des crimes d'abus sexuels. Alors, on a nommé maintenant une avocate des droits des victimes au niveau global, et il y a aussi une avocate au niveau du Centrafrique. Moi-même, j'ai hier eu l'occasion d'avoir une réunion séparés naturellement avec deux des victimes, et leur demande essentielle, c'est une demande de justice. On est en train d'améliorer notre système interne d'investigation, et en même temps, on a fait un travail en profondeur de rapport avec les pays qui contribuent avec les troupes, qui nous a permis, pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, de signer un contrat de bonne conduite et d'engagement à lutter contre l'impunité avec quelques 80 gouvernements, et à avoir un cercle de chefs d'État, chefs de gouvernement, qui assument la priorité du combat à l'abus sexuel, notamment de leurs troupes, qui a été constitué avec une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire, on s'engage à garantir que les États assument leurs responsabilités. Et on est en train aussi de créer les mécanismes internes pour éviter les situations comme celles que, malheureusement, dans le passé, pourraient soulever des critiques pour l'inexistence d'un mécanisme suffisamment efficace d'investigation de ces crimes.
Monsieur le secrétaire général, merci.